Bienvenue dans Musax, l'émission des musiques de jeux vidéo. Découvrons aujourd'hui les musiques interprétées lors du concert Symphonic Legends. Mais avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2011. Et j'accueille ce soir avec moi deux invités surprises. Je tiens à vous présenter à ma gauche Batkill. Bonsoir Batkill.
Bonsoir Surprise.
Hello. Et en face de moi, Jewy. Bonsoir Jewy.
Bonsoir, hello à tous.
Et bonne année à vous deux.
Merci, toi aussi,
bonne année. Bien sûr.
Alors justement, ce soir, vous allez un petit peu nous dire vos impressions des jeux qu'on va présenter ce soir. Donc ce sont des jeux qui sont tous de Nintendo. Et les musiques ont été interprétées donc lors du concert Symphonic Legends qui a eu lieu en 2010, précisément le 23 septembre 2010. C'est l'orchestre de la WDR de Cologne qui a interprété les musiques. On va commencer tout de suite par une première musique, une fanfare des plus grands héros 8 bits de Nintendo. Il s'agissait donc de la fanfare en introduction du concert symphonique Legends. Alors pour information, cet événement en fait existe depuis 2003. Au début, il s'est déroulé à Leipzig jusqu'en 2007, puis en Cologne. En fait, il propose des musiques de jeux vidéo une fois par an. Et cette année-là, en 2010, c'était bien les super-héros de Nintendo. Alors, le premier morceau de jeu, en fait, qui va être interprété est celui de Star Fox, connu aussi sous le nom de Starwing et connu aussi aux États-Unis sous le nom de Lilith Wars. Alors, est-ce que vous avez joué à Star Fox ?
Eh bien, moi, j'avais joué au successeur, en fait. C'est-à-dire que celui-là, je le connaissais de réputation. Et j'avais joué après à son successeur sur Nintendo 64. Voilà. Mais ça restait quand même un souvenir assez fort dans l'histoire du jeu vidéo.
Oui, c'est clair, ouais. C'est sûr que moi, j'avais joué au premier sur la Super Nintendo. Et donc, c'est le premier shoot'em up en 3D, non pas le premier jeu en 3D. Et c'était quand même une sacrée claque, même si aujourd'hui, avec le recul, on pleure un petit peu parce que c'est vraiment des formes très, très basiques. Mais bon, pour l'époque, c'était vraiment, vraiment super. Donc là, on va voir une composition qui reprend à la fois les musiques de Star Fox 64 et de Star Fox tout court. Pour information, donc le premier jeu de la série est sorti en 1993 sur la Super Nintendo. Voici donc la musique d'abord originale pour voir un petit peu l'évolution de la musique interprétée par l'orchestre. Donc ça, c'est Star Fox sur Super Nintendo. Alors certainement que ceux qui le reconnaissent vont avoir un petit peu la larme à l'œil parce que ça rappelle de sacrés bons souvenirs. Et là justement, on va passer au Star Fox 64 en version originale. Voyons voir ce que ça donnait sur la Nintendo 64. Alors on peut constater quand même que même si les sons sont assez basiques, par rapport à la version précédente, on sent qu'il y a une évolution et la qualité est un petit peu meilleure. Effectivement, là on est sur une console d'une génération supérieure, puisqu'on est sur la Nintendo 64 et non plus sur la Super Nintendo. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne une fois que tout ceci est repris par un orchestre philharmonique, donc celui de la WDR de Cologne.
Thank you.
Et voilà, c'était la musique donc de Starwing, qui avait été composée par l'illustre Koji Kondo et Hajime Hirasawa. C'était la version arrangée par Shiro Hamaguchi. Donc Starwing a été vraiment une référence dans les jeux vidéo et surtout dans ce qu'on avait déjà vu dans Muzak, c'est-à-dire les shoot'em up, en français, les jeux de tir. Alors maintenant, on va passer au personnage le plus célèbre à la fois pour Nintendo, mais même pour les jeux vidéo. C'est aussi un des jeux vidéo les plus populaires de toute la planète. À votre avis, de qui je parle ?
It's me, Mario.
Ah, on dirait que toi, tu connais bien la voix en plus de Hernandez, c'était ça, qui faisait la voix de Mario.
Voilà. Here we go.
À chaque fois qu'il voit son plombier, il lui fait le coup.
Donc là, on va voir la version de Mario, de Super Mario Bros, qui est sorti, le premier de la série est sorti en 1985 sur la NES. Alors la NES, donc c'est la Nintendo Entertainment System, le système de divertissement de Nintendo. C'était la première console de salon, on va dire, de Nintendo. Au Japon, la console s'appelait comment, à votre avis ?
Famicom.
Voilà, pour
Family Computer.
Oh là là,
quel... J'ai révisé mes fichiers avant de venir.
Oh là 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 là, trop fastoche, ouais. La Family Computer, imaginez, vraiment, Nintendo voulait imposer, enfin, voulait mettre un standard en place de sorte que tout le monde joue avec la petite console Nintendo. Bon, ça a quand même pas mal marché. Il faut dire qu'elle a vraiment, vraiment cartonné. Donc, est-ce que vous avez joué au Mario et auquel, en fait ?
Ben, on en parlait juste avant et moi j'étais plus sur le Game & Watch précédent en fait.
Exactement.
Mario était plus en invité finalement de Donkey Kong que véritablement le héros du jeu vidéo. Et après j'ai passé cette génération de NES finalement pour commencer Mario plus tard, voilà, sur Super Nintendo en fait.
Mais justement tout à l'heure on en parlera parce que dans ce concert il y a les musiques de notre cher Donkey Kong qui justement a vu la naissance de Mario. Et qui d'ailleurs est un personnage encore plus ancien que Mario.
C'est un peu son cousin.
C'est un peu, voilà, on peut dire son grand cousin.
Allez.
Alors on va s'écouter donc justement la musique de Super Mario Bros. Toujours interprétée par l'orchestre de la WDR de Cologne. que d'applaudissements pour ce medley de Super Mario Bros. Alors vous l'aurez peut-être reconnu, il y avait différents thèmes. Alors juste pour mémoire, on va s'écouter justement un thème du Super Mario Bros. Sur la NES. Voyons voir ce que ça donnait à l'époque. Celui-là, s'il n'est pas connu. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est qu'avec ce morceau, j'ai vraiment l'impression qu'il est vraiment dans l'inconscient collectif. Et c'est un petit peu à partir de là qu'il y a pas mal de personnes qui considèrent que la musique de jeux vidéo, c'est de la musique avec des sonorités cacaberque. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la musique et de voir non seulement au travers des différents jeux, mais encore plus là par rapport, par exemple, à l'interprétation de l'orchestre, à quel point la mélodie de base est vraiment super et que le compositeur, donc Koji Kondo, est loin d'être un compositeur de pacotille, comme on pourrait dire par chez nous. Alors, voyons un petit peu une autre musique maintenant qui provient du troisième volet, donc Super Mario Bros. 3. Alors Super Mario Bros. 3, lui, était sorti en 1989, toujours sur la NES, et il avait connu un succès un petit peu moins fort que le premier, mais bon, c'était un petit peu normal aussi, parce que le premier avait été vendu en bundle avec la console, et forcément, comme très souvent, ce genre d'opération permet de booster les ventes d'un jeu. Alors, pour vous, est-ce que vraiment Mario est le personnage des jeux vidéo ? Est-ce que c'est la référence ?
Bah écoute Yati, on peut pas douter là-dessus, c'est l'icône Nintendo et comme tu disais tout à l'heure, Family Computer, ça fait quand même plus de 25 ans maintenant, enfin près de 25 ans maintenant que Nintendo propose des jeux familiaux avec pour but le divertissement. Et même s'il y a des gens qui sont des compétiteurs de Mario, faut quand même en vouloir pour essayer de faire les meilleurs temps. Je pense que oui, Mario est l'icône du jeu vidéo et surtout cette vague, cette mouvance du jeu vidéo familial ouvert.
Très grand public Mario. C'était vrai que avec son pendant Sonic chez Sega qui était beaucoup plus hardcore gamer.
Exactement.
Et finalement l'icône familiale et l'icône on va dire reconnue aujourd'hui par le plus grand nombre, ça restera Mario.
Et comme la musique complètement indémodable.
Ouais. Déjà la musique voilà donc les musiques composées par Koji Kondo et le jeu qui a vraiment été une innovation par rapport justement au concept donc au game design comme on en parlait justement la dernière fois avec ce fameux scrolling, donc le défilement du décor, les différentes options, donc avec le champignon qui permettait de se transformer, il y avait différentes phases qui permettaient justement de faire évoluer un petit peu les pouvoirs du personnage.
Et grosse innovation à l'époque et qui a perduré chez Mario pendant toutes les générations de consoles et tous les jeux, c'est le gameplay aux petits oignons. C'est vrai qu'on a enfin un jeu de plateforme précis et jouable, alors qu'il y a eu beaucoup de jeux avant qui étaient peut-être corrects, mais dont le gameplay était loin d'être aussi précis que celui de Mario.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que même si parfois il faut quand même être un petit peu un as du joystick ou du pad à cette époque-là, il n'empêche que il n'y avait pas de bug ou il n'y avait pas de choses totalement infaisables où il fallait être au pixel près pour arriver à atteindre justement la plateforme ou quoi que ce soit. Bon après il y avait des petits bugs qui ont été d'ailleurs exploités par des férus de Mario et qui ont réussi à passer les niveaux à des vitesses incroyables ou à terminer le jeu en un rien de temps. Mais bon ça c'est vraiment très très en marge par rapport à toutes les innovations justement que ça apporte.
Ça, c'est le joueur de Sonic qui veut dérouiller Mario.
Ouais. Voilà, ouais, exactement, ouais. Le gros fan. Ouais. Alors là, on va passer justement à un autre jeu. Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas trop connu. Il s'agit de F-Zero. Est-ce que vous connaissez un petit peu F-Zero ?
Alors, le F-Zero sur Super Nintendo, bien sûr. Premier gros effet de vitesse aussi dans un jeu de course futuriste.
Oui.
Assez plaisant. Après, il y a eu Wipeout qui est venu sur des machines concurrentes plus tard, s'inscrivant un peu dans le même genre de jeu.
D'accord.
Et puis finalement, la série a perduré sur DS, sur console portable aussi. Et non pas sur DS, je dis une bêtise, c'était sur la console précédente. Et après, sur Nintendo 64, sur GameCube. Et sur GameCube, attention, c'était un jeu super speed et super prenant.
D'accord, ouais. À ton avis, donc, il est arrivé avant Wipeout. Est-ce que Wipeout s'en est inspiré ou est-ce que tu penses que c'est deux projets totalement différents?
Ben, il y a une différence fondamentale, c'est que dans Wipeout, les véhicules, en fait, sont au-dessus de la piste, alors que sur F-Zero, effectivement, les véhicules sont collés au sol. Et donc,
d'accord,
déjà, il n'y a pas la même appréhension,
oui,
au niveau du déplacement des véhicules. Donc, je dirais plus qu'il y en a un qui est vraiment une course de vaisseau futuriste, alors que l'autre, c'est une course de bagnole, entre guillemets, futuriste, quoi. C'est-à-dire que F-Zero, c'est quand même une sorte de Formule 1 surboostée dans le futur, sur des circuits assez hallucinants, mm-hmm, alors que l'autre, c'était une tentative d'innover avec plutôt un rendu aérien.
Ouais, et voilà. D'ailleurs, c'était une belle tentative et une belle réussite, car Wipeout a été aussi une grande référence dans l'univers du jeu vidéo. Alors justement, on va aller s'écouter la version F-Zero interprétée par un orchestre philharmonique pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, il s'agissait donc de F-Zero. Alors la musique est bien sûr plus longue. D'ailleurs, le concert dure quasiment 2 heures. Donc on ne pourra pas passer aujourd'hui l'intégralité de toutes les musiques. C'est pour ça que je suis obligé de le couper. Mais bien sûr, si vous voulez les entendre en intégralité, vous pourrez aller donc sur le blog musax.info. Il y a un article dédié avec toutes les vidéos et les musiques. Alors la musique de F-Zero a été composée par Yumiko Kanki et Naoto Ishida. Après ce jeu Nintendo, donc qui est célèbre, comme tu disais, Bad Kill, c'était sur la Game Boy Advance.
Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai bafouillé un peu. C'était bien sur Game Boy Advance, et pas sur Nintendo DS, donc bien avant, deux générations avant.
D'accord.
Et oui, là, il y a eu au moins 3 épisodes, si je te dis pas de bêtises. 2, c'est certain, mais il me semble qu'il y en a eu 3 qui ont tous eu, alors à l'époque, dans la presse, des notes très élevées et un beau, fort succès commercial. Un jeu très très attendu et réussi.
Ouais.
Jeu de course.
Mmh. Donc là, on va passer à une autre licence aussi très connue qui s'appelle Metroid. Alors moi, je connais plus par rapport aux derniers, justement, qui sont plutôt Metroid Prime, que j'ai eu l'occasion de toucher un petit peu sur la Wii. Est-ce que vous avez eu l'occasion de toucher à des Metroid ?
Ben, sur GameCube également.
Ouais.
Voilà, à l'époque, GameCube, il y avait eu 2 épisodes, ou moins 2 au moins, c'est sûr. Et oui, alors avec le passage à la 3D, les premières fois où on se roule en boule pour sillonner à travers certains passages. Donc en fait, une sorte de jeu d'action à la première personne, de shoot, donc un FPS, mais très axé exploration.
Oui.
Beaucoup plus que action finalement, donc c'était assez novateur.
Ouais, et bien justement, ça se retrouve énormément au niveau musical, étant donné que les musiques sont vraiment des musiques d'ambiance, avec une atmosphère un petit peu pesante. Il y a un côté à la fois futuriste, à la fois pesant. Donc là, on va s'écouter un court extrait, parce que effectivement, à passer comme ça en direct à l'antenne, c'est pas forcément quelque chose de très parlant. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du jeu, ça colle parfaitement à l'ambiance. On s'écoute Metroid. Et voilà, juste pour illustrer un petit peu l'ambiance sonore de Metroid.
Ça fait très film. Moi, je vois un peu un film de Terry Gilliam ou un truc un peu perché comme ça.
C'est clair.
Une belle musique d'ambiance.
Ah, c'est clair, c'est clair. À écouter, c'est très très agréable. Et à jouer aussi, c'est bien parce qu'en plus, c'est après, tout dépend les versions du jeu, mais plus on avance avec les générations et plus forcément les musiques sont riches, aussi bien au niveau des qualités des sons, mais que des mélodies et de la variation. Et c'est vrai que dans les dernières versions, donc des Metroid Prime, les musiques collent mais vraiment parfaitement et on est plongé au cœur du jeu. Alors une autre licence très connue, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il s'agit de Donkey Kong. Et là pour le concert, ils ont interprété les musiques de Donkey Kong Country qui est arrivé plus tard parce que Donkey Kong au tout début est né en 1981 donc sur borne d'arcade et comme tu le disais tout à l'heure Bad Kill sur les fameux jeux électroniques Game and Watch et à l'époque il était le méchant et il balançait des tonneaux non pas sur Mario mais sur qui?
Sur la princesse?
Ah non, la princesse était prisonnière.
Ah oui, ça c'est vrai.
Mais il balançait des tonneaux sur un petit personnage moustachu.
Luigi?
Non.
Alors là,
ah ah.
Là on sèche. Hein.
Eh bien en fait, il s'agissait à l'époque de Jumpman, qui allait devenir plus tard Mario.
D'accord.
C'était le premier nom de Mario.
On savait pas qu'il était plombier italien.
Et pour l'instant, en fait, on était sur des échafaudages, donc non, on était plutôt dans un côté charpentier.
D'accord.
Il était charpentier. D'ailleurs, après, dans les autres épisodes de Donkey Kong et dans le 2, il sera le méchant et c'est lui qui retiendra prisonnier Donkey Kong. Et après, il aura sa propre licence. Mais au tout début, c'est Donkey Kong qui, en fait, envoyait des tonneaux sur Jumpman, l'homme qui saute. Alors, dans Donkey Kong Country, lui, qui est sorti en 1994 sur la Super Nintendo, ben, on retrouve Donkey Kong, mais là, avec le rôle du gentil. C'est sûr que quand il balançait les tonneaux, il était pas très cool, mais là dans le country, il est plutôt sympathique. Est-ce que vous y avez touché vous?
Oui, avec les personnages en 3D dans un décor 2D vu de côté, c'est ça.
Ouais.
Oui, alors grosse prouesse technique à l'époque et grosse difficulté qui fait que moi, dans mon tendre âge de joueur, eh ben j'ai pas poussé l'expérience très loin parce que je trouvais le jeu très difficile.
Oh, c'est clair. Moi, je l'ai plutôt vu sur la la N64 et effectivement c'était quand même un jeu de plateforme où fallait être un as du joypad et il fallait fallait le manier vraiment à la perfection quoi.
Et puis pour l'anecdote c'est aussi quelque chose de très musical puisqu'il y a le Donkey Konga sur pareil sur GameCube avec Donkey Kong en héros de jeu vidéo et on jouait les percussions à la place des manettes avec.
Toi,
des
t'avais acheté les congas.
Là j'avais les 4 congas et le jeu et on jouait à 4 effectivement c'était assez marrant.
Très très fun ouais comme toujours justement quand on a justement des accessoires c'est un petit peu plus fun. Ok, on va s'écouter la musique de Donkey Kong Country version orchestre philharmonique. La suite, vous pourrez la retrouver sur musax.info. On va passer au morceau suivant qui provient du jeu Pikmin, composé par Hajime Wakai et arrangé par Hayato Matsuo. Alors, Batkill, tu y as joué. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Il y avait eu Pikmin et Pikmin 2 juste enfin un an et demi après. Pikmin, c'est un jeu complètement farfelu avec plein de petites créatures de quatre couleurs différentes qui ont chacune un rôle bien précis. Donc, un jeu de stratégie sur console, genre qui n'est pas forcément très répandu, très réussi, très écolo dans l'âme en fait aussi. Enfin, on est toujours dans les petits jardins à nettoyer, à faire des trucs, c'était assez marrant.
Donc avant-gardiste en plus.
Un petit peu avant-gardiste, tant dans le gameplay, la manière de jouer, que dans l'univers et dans la manière de présenter les choses. C'est un peu comme si les gens de chez Nintendo avaient pris des champignons mexicains et qu'ils avaient dit on va faire un jeu vidéo et franchement le rendu était pas mal du tout quoi.
Oui, c'est vrai que je me rappelle que graphiquement c'était vraiment pas commun quoi, on n'était pas habitué à voir ce genre de graphisme. Et après au niveau du jeu c'était aussi un petit peu différent.
Bah c'était de la stratégie avec des enfin quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire sur console puisque jusqu'à présent sur console on avait surtout des portages de jeux PC genre enfin Command & Conquer des choses comme ça donc des choses très classiques qu'on transportait juste la souris sur la manette
ou on souffrait le martyr pour faire quelque chose ouais.
Et alors que là c'est un jeu qui était pensé pour la console donc finalement super maniable super accessible et puis avec un but un petit peu éducatif hein, de sensibilisation on va dire justement à l'écologie. Il y a des choses comme ça, donc quelque chose de novateur, ouais.
Comme, okay. comme quoi, les jeux quand ils sont pensés pour les consoles, même quand il s'agit de jeux purement PC comme les jeux de stratégie en temps réel, ben ça peut fonctionner.
Ouais. Tout à fait. Bon ben on va s'écouter la musique tout de suite. Allez, on s'écoute Pikmin. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Avec tous ces changements au niveau de la mélodie, au niveau du rythme, etc., avec des envolées, ça donne vraiment beaucoup d'images et je trouve ça absolument sublime. Alors on va passer sur un autre jeu, on va revenir à un personnage, ben, le personnage de Nintendo, c'est-à-dire Mario, mais dans une autre version, puisqu'il s'agit de Super Mario Galaxy, qui est sorti donc en 2007 sur la Wii, et comme la plupart des autres épisodes donc de Mario, il a connu un très très gros succès, et encore une fois, la mascotte de Nintendo a été un véritable jackpot. La musique est encore une fois composée par Koji Kondo avec Mahito Yokota. Donc Koji Kondo est vraiment le musicien des gros thèmes de Nintendo. Il a composé vraiment les plus gros hits et il est vraiment connu parmi tous les amateurs de musique de jeux vidéo. Alors Super Mario Galaxy a été quand même aussi très très innovant. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y jouer ?
Bah écoute, Super Mario Galaxy, c'est Mario le voyageur de planète, et donc ce qui changeait, c'est que dans le level design, on va avoir une forme sphérique, et même plus loin dans les niveaux, on va aller de sphère en sphère, et donc c'était une véritable originalité, parce que les créatures, maintenant on n'était plus dans un plan 2D, il fallait penser en 3D leur mouvement, anticiper, et effectivement, encore une fois, on retrouve cette patte Nintendo qui fait un jeu abordable, parce que le gameplay est très bien pensé, très bien étudié, très précis. Là encore, on travaille au pixel près, mais on se prend pas la tête, ça fonctionne. Par contre, là aussi, on retrouve le challenge Mario, c'est-à-dire le finir à 100%. C'est un sacré défi. Et là, je mets au défi pas mal de gens de le finir à 100%.
Ouais, c'est là où ils font fort quand même souvent. Hein. C'est que à la fois ils font un jeu donc qui est bien pensé au niveau évolution de la difficulté, parce que il est difficile, mais sans être impossible.
Exactement.
Et ça, au niveau donc game design ou level design, c'est-à-dire la conception du jeu ou la conception des niveaux, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et chez Nintendo, ils sont champions. Alors, Badkill, tu as peut-être touché un petit peu.
Ah non, moi je suis super déçu qu'on parle pas de Paper Mario là. Donc.
Ah mais ouais, mais ils l'ont pas interprété. Je suis désolé.
Non, pas de soucis. Non, mais après, enfin, pour revenir à Mario Galaxy, pareil, je regarde ça de loin parce que là, oui, j'ai pas eu longtemps entre les mains, mais. Le peu que j'en avais vu, c'est exactement ce que disait Joey. Aucun problème de gameplay, super coloré, maniable, difficulté progressive, prenante, avec un challenge pour les joueurs les plus acharnés. Donc,
De 7 à 77 ans et du occasionnel gamer au hardcore gamer.
Eh bien, on va passer directement, non pas à la musique de Super Mario Galaxy, parce que vous aurez reconnu, vous la voulez ? Tu la veux ? Allez,
un petit peu.
Mais parce qu'en fait, c'est le générique que j'utilise aujourd'hui pour Musax. Allez, on va se le faire un tout petit peu.
Ouais.
Et en plus, il y a des applaudissements.
Merci.
Voici, c'était le début.
Merci,
donc de Super.
Ah,
je sais que ça t'a fait plaisir. Quand j'ai vu tes yeux,
ah bah oui,
plein d'envie. Je me suis dit.
Attends,
non, mais je peux pas.
Ces cordes ensemble là, c'est magnifique.
C'est merveilleux. Alors, on va passer à un autre titre très 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 connu, presque aussi connu que Mario chez Nintendo. À votre avis, qui c'est qui manque ? Un personnage ?
Kirby ?
Non, beaucoup plus connu.
Beaucoup plus connu qu'un. Link, Zelda.
Exactement,
ah bah oui.
Exactement. Ouais, d'ailleurs, moi, très longtemps, j'ai cru que Zelda, c'était le nom du petit bonhomme.
La confusion.
Et ouais, eh ben non, le petit bonhomme s'appelle
Link.
Et il va sauver sa princesse
Zelda.
C'est trop facile, ils ont suivi. Alors, voyons, on va se faire une petite séquence nostalgie. On va écouter la musique de Zelda version NES. Thank you. Alors, ce qui est assez incroyable quand même, c'est que juste en l'écoutant, on a envie effectivement de prendre son épée, de marcher, de bouger des blocs, d'aller parler à des gens.
De slapper la princesse Zelda.
Oh, mais enfin. Ça, c'est à la fin, après 70 heures de jeu. Pas tout de suite. Allez, on va s'écouter la version orchestrée et on va voir que la mélodie y est toujours, mais que bon, voilà, hein, c'est plus la même époque. Et voilà la fameuse musique du fameux jeu de Nintendo, Zelda. Alors le concert à ce niveau-là était sur le point de se terminer, mais vu les applaudissements, eh ben ils ont dû faire un autre morceau intitulé « Encore ». Thank you. Si vous avez aimé les musiques de ce concert, donc Symphonic Legends, vous les retrouverez bien sûr donc sur musax.info avec un article qui lui est entièrement consacré. Le CD aussi est en vente et disponible. Vous le trouverez sur différents sites et sur Amazon. Alors, un dernier petit mot des invités. Badkill, je t'avais reçu il y a 15 jours de ça. J'aurais voulu savoir comment se sont passées ces fêtes. Et par rapport justement à étrangeté.com, donc ta boutique en ligne de vente de thé, comment ça s'est passé?
Bah écoute, pour les fêtes, ça a été sympa pour les étrangetés. On avait un peu trimé les jours avant, je t'avouerai, on était un peu déçus de ce qui se passait. Et puis notre coffret Noël a finalement fonctionné et pris un envol tout à fait correct. Super. Donc on s'en est pas trop mal tiré. Écoute, on est assez content, voilà. Tout le monde est satisfait. On sait qu'on a eu de bons retours. Les gens sont contents de leur thé. Et nous, on est contents de leur avoir vendu.
Génial. Ça, c'est une bonne chose. Et toi, Jewy, alors, c'est fait?
Eh bien, écoute, les fêtes, ça s'est très bien passé. Je suis très content, vraiment très content, Yatik, que tu m'aies invité ici, chez toi, parmi les tiens.
Parmi les miens, à
parmi
Campus
les tiens,
FM.
Parmi tes héros, parmi les Mario, les Link. Et je voulais juste te dire un petit truc, c'est qu'il existe une version du thème de Zelda, qu'on vient d'écouter à l'instant, faite par System of a Down. Alors, pour ceux qui aiment bien ce groupe, ça vaut vraiment le coup de jeter une oreille attentive.
D'accord, merci pour l'info. Eh bien, il va être l'heure de nous quitter. Cette émission sur Symphonic Legends, le concert se termine. Vous pourrez écouter d'ici quelques jours le podcast de l'émission, donc réalisée et produite par Yati Multimédia sur le blog musax.info. Il est temps de vous dire à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Musax.